I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais si je prenais une année sabbatique.
Mais parce que je comprends pas, je ne trouve pas que la vie soit faite pour passer son temps entre quatre murs dans un bureau.
T'es faite oui. pour une vie sabbatique.
Mais finalement, est-ce qu'on devrait pas avoir une année sabbatique entre chaque année?
Exact.
Tu vois, enfin, je sais pas. C'est...
Je suis grave d'accord. Un an travaillé, une année sabbatique.
Oui.
Et puis voilà.
Ça c'est vrai. Logique. C'est vrai, ça semble très logique.
T'as rigolé à Patrick Sabatique.
Oui, si Emmanuel Macron est un LM crado, déjà, dégage, on veut pas de toi. Mais également, ensuite, peut-être fais passer une mesure.
On vient de perdre un abonné, fais chier.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Laisse-moi kiffer, comme d'habitude c'est l'épisode. Je suis toujours Mathis Grosso, j'ai toujours les cheveux gras, j'ai chaud à des endroits que je ne pensais pas possible car c'est le début de l'été, aka la saison de l'enfer. Je suis très mécontent et pourtant content.
T'aimes vraiment pas la vie, non ?
Non, j'aime vraiment pas.
C'est pas encore l'été.
L'été et c'est déjà désagréable.
C'est déjà trop chaud.
J'ai déjà... Enfin, mais merci, voilà.
Mais moi je déteste.
Mais j'adore le printemps malgré
j'ai
l'allergie.
J'ai envie de vivre là où il fait froid.
Moi je fais mes meilleurs jeux de mots, je traite les gens de climato-sexique, voilà. J'adore l'été.
Climato-sexique.
Le réchauffement climatite en... Voilà. N'hésitez pas à rire sur mes blagues botaniques.
Tu sais ce que c'est qu'une clématite ? Putain, mais je suis impressionnée.
Mais attends, j'ai encore plein de talents à te montrer. Attends que je jongle. Vous l'aurez reconnu peut-être, j'ai à ma gauche l'excellente Kalindi Rampfel.
Oui.
Voilà, applaudissez-la. Bah si on fait ça,
bravo,
moi j'essaie d'applaudir
bravo.
Comme je peux.
Tu vas jouer un match de rugby.
C'est prévu, mais je spoil
plus
pas
tard,
tout de suite. Vous avez en face Anthony Vincent avec
oui
un magnifique pantalon rose.
Bonjour.
Ouais.
Et oui. Et juste à côté, la rédactrice en chef de Mademoiselle, Marie-Stéphanie.
Oui.
Bonjour. Donc, je n'ai pas cité le nom Marie-Stéphanie Servos, voilà.
C'est l'ensemble de mon nom et mon prénom finalement.
C'est vrai, absolument. Voilà. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je suis Mathis Grosso et personne ne dit oui. J'enchaîne
oui
donc.
Oui
sans plus attendre. J'enchaîne donc sans plus attendre sur une question qui m'a été soufflée sans qu'elle le sache par Kalindi Rampfel.
Ah bon ?
Mais non, parce que je te l'ai pas donné. Et justement, c'est toi qui m'as posé la question tout à l'heure et je me suis dit ce serait une excellente question pour commencer. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà fait. Quel est le pire job que vous ayez fait dans votre vie ?
Oh my god, facile.
Et je commence par toi, Kalindi.
Ah ouais. Bah attends, parce qu'on a eu quand même quelques-uns. Je dirais quand même que ça a été Quick.
Moi aussi.
Toi aussi, t'as été équipier chez Quick. Putain, à Paname.
Ouais, enfin, quoi?
À Paname?
Non, en banlieue parisienne.
Ok.
C'est tout comme.
Bah oui, c'est
ou
pareil.
Ou pire,
ouais.
Je ne sais pas.
Non, mais je me suis dit, ça se trouve, on a été au même. Bon, alors, c'était catastrophique. Donc, j'avais 17 ans, et à 17 ans, il n'y a pas un milliard de jobs que tu as le droit de faire. Et
non.
Donc, la seule entreprise qui m'avait embauché, qui m'avait dit oui, c'était bien sûr Quick. En plus, c'était du piston. Donc, quand même pas on a du piston, je ne sais pas comment on fait pour bosser à 17 ans.
Pistonné par qui?
Bah, c'est ma mère, elle avait Ken un jour, le chef de.
Le
chefs de Quick.
Bon. Non, les Nepo Babies chez Quick, c'est un truc. Hein.
Une promotion de canapé par procuration.
par la procuration de ma mère.
Si c'est pour un quick.
Trop détail.
Et donc du coup, mais c'était bien avant de me concevoir, c'était vraiment un très ancien amant.
Oui.
Bref.
Un vieux contact.
Donc elle rappelle en disant, écoute, t'es toujours chez Quick, ma fille cherche un travail. Et moi j'étais là, quoi, mais je vais pas aller bosser chez Quick, l'enfer et tout. J'ai été chez Quick et en fait il s'est avéré que... en fait j'avais un papa... qui était un homme qui avait peu d'argent et le peu d'argent qu'il avait une fois par an il s'en servait pour me faire un très beau cadeau. Et quand j'avais 17 ans, j'aimais beaucoup la marque Tara Jarmont et le jour de mon début chez Quick, il m'avait offert, c'était le lendemain de mon anniversaire, il m'avait offert une robe Tara Jarmont. Et en fait, j'étais arrivée chez Quick avec mon sac Tara Jarmont et là, c'était fini. J'étais la bourgeoise de la team. Mais vraiment finito et j'ai eu le malheur dans la même journée d'aider une de mes collègues qui parlait pas anglais à prendre tout un groupe d'Américains. Et donc je parle anglais à sa place et là elle était là, je peux très bien me débrouiller toute seule en fait. Et donc là j'ai été la bourge, la snob de l'anglais, enfin bon bref c'était catastrophique. J'ai jamais réussi à m'intégrer dans cette équipe de Quick. Je mangeais seule tous les midis mes Quick and Toast. je comprenais rien. Parce que, alors, moi, il faut savoir qu'en situation de stress, mon cerveau se coupe. Donc, j'étais là, je comprenais rien aux commandes. Je faisais de la merde dans les comptes et tout. Enfin, c'était une cata. J'arrêtais pas d'offrir des Pepsi à tout le monde. Mais parce que.
Coulé quick.
Il y a plein de gens qui doivent se rappeler de toi. C'est de là d'où viennent tous tes abonnés. Ils sont... C'est la dame c'est de chez Quick. Suivez-la.
Mais en fait, c'est parce que, en fait, les gens, ils attendaient longtemps pour avoir un burger. Et j'étais là, attends, ça s'appelle fast food. Ok. Donc, du coup, bah, pour dédommager les gens, je leur offrais des Pepsi et autres douceurs.
Bah oui, oui, ça fait sens.
Bref, et un jour, je me souviens, j'avais une collègue qui me détestait et moi, je l'aimais bien. Et en fait, il y a eu son anniversaire et pour essayer de me faire un peu copine avec elle, je lui ai offert un bouquet de lys blanc et elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Et elle l'a bourré dans son casier, elle a refermé la porte, elle m'a pas dit merci.
Mais c'est affreux,
la
violence du truc. Non, mais je me suis fait bouillie vraiment chez Quick.
Wow. T'as pleuré un moment ou pas ?
J'ai pleuré un matin où j'ai dit à ma mère « Je veux pas y aller » et tout. Elle m'a dit « Tu y vas, Kalindi, en fait !» et en plus, je m'étais mis une grosse caisse la veille et tout, et j'y suis allée, c'était horrible. Bon, bref, c'était vraiment les trois mois les pires de toute ma vie.
Trois mois, c'est long en plus.
Trois mois, c'est long du coup.
Particulièrement quand on a 17 ans.
C'est clair. Mm. C'était pour me payer un voyage.
Mais ça fait de l'argent de côté, oui, c'est ça.
Ça mettait de l'argent de côté. Ma mère m'avait dit, ok, je veux bien, parce que à 17 ans, je m'étais dit, bon, je vais prendre une année sabbatique. Je veux bien que tu ailles vivre à New York.
Tous les ans. Vraiment tous les ans, Kalindi. Et si je prenais une année sabbatique.
Mais parce que je comprends pas, je ne trouve pas que la vie soit faite pour passer son temps entre quatre murs dans un bureau.
Pour une vie sabbatique.
Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une année sabbatique entre chaque année ?
Exact.
Tu vois, enfin, je sais pas.
Je suis grave d'accord. Un an travaillé, une année sabbatique.
Oui,
et puis voilà.
Ça semble logique.
C'est vrai, ça semble très logique.
T'as rigolé à Patrick Sabatique.
Oui, si Emmanuel Macron est un LM crado, déjà, dégage, on veut pas de toi. Mais également, ensuite, peut-être fais passer une mesure.
On vient de perdre un abonné,
fais chier.
C'est clair. 10% de nos écoutes. N'hésite pas à mettre en place l'année sabbatique, finalement, un an sur deux. Voilà, adapté sur les cycles de la lune, je ne sais pas, j'ai fait un bac littéraire. Anthony, quel est le pire job que tu aies fait ?
Mais en fait, je n'ai pas fait de pire job car j'ai pas eu beaucoup de jobs dans ma vie. Et en fait, Quick, finalement, enfin, quand on me demande c'est quoi le pire, je pense à Quick, mais c'était pas si mal. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Bah, j'ai commencé à 18 ans parce que j'avais envie d'un job étudiant pour gagner un petit peu d'argent. Et j'ai adoré parce que c'était hyper différent de mon quotidien habituel. Et que ça a beaucoup travaillé ma mémoire, parce qu'en fait, j'étais équipé polyvalent, comme toi, peut-être, Kalindi.
Horrible, je retenais jamais rien.
Bah, moi, je retenais rien au début.
Équipé monovalent.
J'étais un peu le bourgeois du Quick aussi. Ouais. J'étais genre, bonne dégustation, on dit pas bon appétit, ça nous rappelle qu'on a un ventre.
On est dans un gastro avec Anthony.
C'était n'importe quoi. Je donnais du Coca Light à tout le monde parce que j'étais un peu grossophobe à l'époque. Et c'était n'importe quoi. Enfin, j'étais hyper interventionné, genre, vous êtes sûr que vous voulez ça?
Mais non,
vraiment,
Anthony,
j'étais odieux.
Mais bravo de la
mettre
en salade,
les
gens qui l'ont été, osent le dire.
Oui, bah peut-être que j'aurais peut-être pas dû le dire dans un micro, mais non, vraiment, j'ai évolué sur cette question-là.
Peut-être que dans tous les gens qui nous écoutent, je veux dire les milliards de personnes qui nous écoutent quotidiennement dans leur foyer, en famille, il y a beaucoup de gens qui vous ont eu chez Quick et qui ont eu une très mauvaise expérience de vous. Donc c'est peut-être le moment de leur parler et de vous excuser.
Ah, moi, je m'excuserai pas. Il y a un jour, une dame, elle est venue.
Toi, t'as donné du Pepsi gratos.
Je passais les balais. Et elle a jeté des frites sous sa table exprès pour que je nettoie sous sa table. Donc
non, mais les gens sont odieux. Il y a certaines personnes qui sont vraiment odieuses et qui profitent de leur petit pouvoir de client.
Particulièrement odieux dans les fast-food en fait.
Oui, parce que moins c'est cher, plus non, c'est pas vrai en fait. J'allais dire moins c'est cher, plus ils permettent des choses, mais c'est pas vrai.
C'est pas mieux ailleurs. Hein. Ouais, c'est pas mieux quand c'est du haut de gamme.
Toi qui manges à la Tour d'Argent tous les midis.
Non, j'ai été serveur pour des riches. C'est différent.
Une fois, j'ai déjeuné au Cheval Blanc à la Samaritaine à Paris et les gens étaient vraiment odieux aussi. Ouais. Donc
oui,
vraiment c'est pareil
Bien sûr, mais des gens qui foutent des frites sous ta table exprès pour que tu les ramasses.
Non mais j'étais là,
ça reste quand même
non mais horrible, horrible.
Non mais j'étais une très mauvaise personne à l'époque où j'étais chez Quick et même genre j'avais un peu de mépris de classe quand je suis arrivé et j'étais, enfin je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas très glorieux, mais ça m'a aussi beaucoup appris, beaucoup questionné et ça m'a rendu beaucoup plus humble aussi de travailler chez Quick.
Ah bah ça calme hein, par contre. Oui,
ah oui, ça forge
et
ça calme,
mais je m'excuserais pas non plus pour autre chose. Je m'excuse pour mon comportement grossophobe passé et mon mépris de classe passé, mais vraiment j'ai aussi été affreusement dragué par des pères de famille devant leurs darons, devant leurs enfants, genre c'était n'importe quoi, et des mecs qui laissaient leur numéro de téléphone et tout, alors j'avais vraiment une tête d'enfant, tu vois, donc c'était n'importe quoi.
C'est peut-être pas un alors que dans leur tête, c'est ça peut-être le problème.
Ouais, c'est peut-être aussi ça le problème, effectivement.
C'est pas malgré ton âge, quoi.
Et t'es resté combien de temps ?
3 ans, je crois.
Ah ouais, waouh, ok.
Non, mais en vrai, ça allait. Enfin, j'étais...
Donc
en job étudiant à côté de mes études à la fac, parce que c'est un taf qui... McDo ne voulait pas de moi, figurez-vous.
Ah enfin,
j'ai trouvé de job nulle part. y compris au McDo, y compris en passant par Pôle emploi pour aller au McDo. Et du coup, ce qui est fini chez Quick, le seul truc qui voulait bien de moi.
Mais comme moi, et... c'est drôle, c'est exactement le même parcours.
Hallucinant, j'étais.
Et moi aussi, j'ai fait un peu de mépris de classe au départ et je me suis bien calmée ensuite.
Ah, mais c'était une expérience très humiliante et très, qui m'a rendu beaucoup plus humble. Donc, vraiment, je suis reconnaissant envers Quick finalement. comme dirait Aïna Kamou.
Comme sponsorisable.
Non, mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé avec beaucoup plus de connards quand je bossais au Bon Marché et j'ai bossé longtemps au Bon Marché. Et là, j'ai travaillé avec ce qu'on peut considérer comme le summum de
connards.
des connards, vraiment. Et des connasses aussi. Donc, je comprends qu'en vrai, il y a des gens qui ont pu s'amuser chez Quick et McDonald's. C'est possible, apparemment.
Mais c'est aussi en Slack qui était un peu plein, que ça m'a fait un tilt, que je me suis rendu compte à quel point j'étais à côté de la réalité. C'était que, en fait, pour moi, tout le monde était là en mode job étudiant, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, il y avait des gens qui étaient là depuis 10 ans, qui vont y rester toujours. Et c'est OK, quoi. Enfin, donc, voilà, ça m'a mis une claque à ce niveau-là et ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, je trouve que j'ai régressé en mémoire depuis que j'ai arrêté de travailler chez Quick, où vraiment, je pouvais retenir une commande de 10 personnes et la servir hyper rapidement. Même me souvenir que, ah oui, tel enfant, c'est tel jouet et tout. Et en fait, maintenant, je reconnais à peine mes parents dans la rue, quoi. Enfin,
ah oui, je
reconnais à peine tes parents dans la rue.
Ouais. Je crois qu'il est déjà raconté dans la LMK qu'il était rentré dans la mauvaise voiture une fois. J'ai aussi confondu mon frère avec quelqu'un d'autre une fois.
C'était pas de vision, enfin, Anthony, plutôt, non?
Est-ce que tu t'es fait un petit scanner cérébral?
C'est clair.
J'ai fait un champ visuel récemment. J'ai fait beaucoup de pression oculaire, beaucoup de migraines ophtalmiques. Mais ce n'est pas du tout pour ça que je ne reconnais pas les gens dans la rue. C'est que je suis très, très peu attentif visuellement. Je suis très attentif à la voix des gens.
Ah oui, je t'ai dit plusieurs fois, je t'ai croisé devant l'étoile de Montmartre et j'étais là, Anthony,
Calmi-y, toi, il t'ignore, c'est autre chose.
Pas du tout. Je suis vraiment bigleux et en plus de ça, je lève très peu la tête en fait. Voilà, je me repère autrement, vraiment beaucoup au son. Je reconnais les gens au son de la voix plus.
Après, Anthony, t'es face à Calindy qui est quand même quelqu'un de très discret, donc on peut totalement comprendre que tu aies pu ne pas l'entendre, ne pas la capter. Cette petite voix si peu reconnaissable. Marie-Stéphanie, de ton côté, c'est quoi ta pire expérience professionnelle?
Alors écoute.
Et pourquoi chez Mademoiselle?
Et pourquoi chez Mademoiselle? Finalement, j'allais en parler. Non, eh bien, contrairement à vous, messieurs, dames, moi j'ai travaillé chez McDo.
Ah bon,
moi, ils m'ont accepté, vous voyez. Hein. Et en vrai, j'étais en train de réfléchir dans ma tête parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de jobs étudiants à partir de mes 17 ans, parce que le Domac, c'était mon premier job étudiant à 17 ans. Après, j'ai travaillé à la Brioche Dorée, j'ai travaillé chez H&M, chez Petit Bateau, enfin, pas mal en retail. Et finalement, je pense que ma pire expérience, c'est pas McDo. Parce que même si je me suis fait cracher au visage par un mec parce que j'avais mis... Genre physiquement.
D'accord, donc
physiquement.
Littéral, quoi. Okay.
Mais, oui, vraiment, quelle il m'a horreur. Craché au visage parce que il avait appuyé sur la borne de commande sur Filet au Fish. Et enfin, il pensait avoir appuyé sur Filet au Fish. Et en fait, dans la commande, ça affichait Big Mac. Donc nous, on lui a servi un Big Mac. Et le mec, dimanche soir, je pense que tu connaisses McDo parce que c'est à Lyon, dans le 7e. Mmh. C'est celui de la Guillotière.
Oh putain.
Le pire McDo.
Le pire McDo, ouais.
Et en fait, c'est...
Au monde, genre.
Ah non, mais vraiment. En fait, t'as absolument...
Sa zone de ouf.
Sa zone de ouf et t'as absolument de tout. Et la personne qui m'a craché au visage...
J'ai perdu un portable là-bas.
Quelqu'un qui zonait, tu vois. C'était un mec en costard, un soir, qui rentrait chez lui et qui était juste fané que... on se soit, même si c'était lui en réalité, trompé de commande. Et le mec m'a dit « appelez votre manager et tout ». J'étais là « je fais quoi ?» et il m'a craché dessus.
Waouh.
Malgré tout, ça n'était pas ma pire expérience.
Tu l'as enterré où, pardon, mais
je l'ai jeté dans le Rhône.
Bah ouais, de ouf.
Voilà. Mais non, en vrai, j'ai trouvé ça assez formateur d'un point de vue humain. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a une diversité de gens qui bossent dans les fast-foods. Enfin, c'est des gens qui font des jobs d'études, des jobs étudiants, des gens qui, donc c'est le vrai job, enfin, tout le temps. Des gens qui viennent de tous les milieux différents. Donc, c'était aussi intéressant, même humainement, de se lier avec d'autres gens que ceux que je pouvais avoir dans mon cercle. Et puis c'était drôle au final. Enfin, j'ai pas bossé longtemps là-bas, j'ai bossé genre un mois, deux mois l'été. Je me suis fait des potes et on sortait après notre shift à 1h du mat, après le closing, ça s'appelait, oh mon dieu. Et on allait boire des coups et c'était très drôle. Mais l'idée c'était pas de raconter sa meilleure expérience, l'idée c'était de raconter la pire.
Ouais.
Et en vrai, la pire, c'est quand j'ai bossé chez Hollister. Vous voyez tout ce que
horrible.
C'est.
Est-ce que c'était l'époque où il y avait les mecs torse nu ou pas?
Exactement. C'était, pour être tout à fait précise, en 2012, donc il y a 11 ans.
Waouh. Et la fin du monde à l'époque.
Exact. Mais c'était avant, parce que du coup, c'était en décembre la fin du monde normalement.
C'est vrai.
Et en fait, donc Hollister arrive à Lyon. Donc vous voyez ce truc, c'est comme Abercrombie & Fitch. Enfin, c'est la même marque. Donc les gens étaient dingues. Il y avait les mecs torse nu devant. Il y avait la musique à l'intérieur. Il faisait noir. Enfin, c'était vraiment un gros phénomène à l'époque. Et donc Hollister arrive à Lyon. Et là, les mecs font passer des castings pour bosser avec eux. Donc tu passais un entretien d'embauche avec 30 autres personnes dans une salle. Et on te posait des questions, tu étais assis sur une chaise, il fallait te lever devant tout le monde, c'était horrible. Et on te posait des questions, et bref, après, tu étais embauché, il y avait trois niveaux. Tu étais soit embauché pour être modèle, donc c'était les gens qui étaient en mini-short devant des meufs ou des mecs, voilà, qui étaient là genre « Hello, welcome to the pier !» Parce que c'était ça qu'on disait aux clients quand on les accueillait. Il est tellement choqué,
Magis. Mais moi, je crois que j'ai connu... Enfin, il y a eu un scandale par rapport à tout ça. Oui. Enfin, c'est monté oui. jusqu'à ce que ça soit...
Il y a un documentaire,
j'ai écrit dessus sur Mademoiselle, même si il n'est plus disponible. Je pense qu'il est encore disponible sur Netflix en réalité, mais si jamais il ne l'est plus, il faut lire l'article que j'ai écrit dessus sur Mademoiselle.
Ouais.
Mais ouais, c'est affreux.
Du coup, moi, je pense que j'étais pas dans une assez grande ville pour qu'il y en ait à l'époque. Du coup, j'ai dû connaître l'ère post-scandale un peu plus sobre.
En fait, ils se sont pris l'inspection du travail. Bah. Hein, donné, les mecs, en fait, ils mettaient des Américains à la tête de ces magasins et ils leur disaient vous faites comme aux US et vous ignorez le droit français. Quoi.
Ouais.
Et littéralement, ma boss de l'époque, elle s'est pris je ne sais combien de procès et de comment ça s'appelle déjà, de prud'hommes. Parce qu'il y avait des trucs basiques de droit du travail qui n'étaient pas respectés. Et notamment le fait qu'on bossait dans le noir, aspergé de parfum absolument à longueur de journée. Et donc oui, donc moi, je n'ai pas été recrutée en tant que modèle, hein, parce que vous qui m'entendez, hein, vous ne me voyez pas, mais je ne suis pas un mannequin, parce que vraiment, c'était des critères, il fallait que les meufs se ressemblent toutes. Mais il y avait deux autres niveaux. Tu avais le niveau, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, c'était le niveau de ceux qui bossaient dans la boutique. Qui s'occupait de replier les pulls parce qu'il fallait que les pulls et les fringues soient pliés à la perfection, mais genre au millimètre près, on avait des règles pour plier les fringues. Et donc là, c'était ce que je faisais. Donc je bossais dans le noir, vraiment genre personne ne me voyait. Je pliais mes petits pulls par terre et tout. Et t'avais ceux qui bossaient en stock. Donc là, c'était vraiment les gens moches, ceux qu'on voulait pas voir. Mais c'était vraiment
mais
ça.
Attends.
T'avais un niveau, un degré de gens beaux, tu vois. T'avais ceux qui étaient mis en avant, donc les modèles, ceux qui pliaient, qui étaient visibles, mais pas trop, et ceux qu'on voulait pas voir. C'était horrible. Mais je sais pas pourquoi, à l'époque, on était tous heureux, tu vois, d'être dans ce système-là. On voyait pas où était le souci.
Bah parce que t'as des gens en dessous, donc tu crées des intermédiaires, c'est assez pratique.
Pour les gens qui sont en réserve, super.
Ah bah ouais, ils sont en mode bon, c'est mieux que chez Quick.
T'as l'impression d'être dans une strate différente, quoi.
Bah ouais.
Genre, ouais, bah moi je suis en magasin, ouais. Ouais, toi t'es où en stock? Ah ok, je t'avais pas vu. Enfin, tu vois,
c'est horrible,
ça.
Bien sûr.
Et je crois que le pire, il s'est passé deux trucs vraiment où je me suis dit. Bon, il faut savoir que je me suis fait certaines de mes meilleures potes dans cette expérience-là aussi. Donc, en vrai, merci, quoi. Mais un truc, c'était que... Donc, on avait des fringues qui nous étaient fournies parce qu'il fallait être habillé par la marque. Mmh. Mais il fallait les payer, hein, les fringues. Hein, quand
ah
même.
Bon
on avait moins 50, mais juste un t-shirt coûtait 50, 70 balles, tu vois. Donc, tu payais quand même 35 euros et ta tenue complète te revenait à plus de 100 euros.
C'est abusé.
Le scandale ne s'arrête pas là.
Quand je pense qu'il y a un truc aberrant, tu sors une nouvelle phrase. J'adore, c'est génial.
Attends, tiens-toi bien, ce n'est pas terminé. et donc moi, la meuf m'avait dit, tu fais quelle taille et tout. Donc je lui avais dit, je fais du 36 ou du 38, je sais plus. Elle me dit, ok, je vais te filer du 34. Et genre j'étais là, non, parce qu'en fait je fais du 36, donc tu vas pas me donner du 34, je vais pas rentrer dedans. Mmh. Elle m'avait obligée à prendre le truc en 34. Pourquoi? À votre avis?
Te motiver à mentir?
Non, même pas. Mais ça aurait pu être.
Oui, c'est ce que j'avais en tête, mais j'osais pas le dire.
Ben non, mais parce qu'en fait.
Que ce soit moulant, non?
Comment?
Pour que ce soit moulant.
Pour que ce soit moulant et pour que ce soit court. Donc tu vois, le t-shirt qui te serre et qui remonte, en fait, et le jean qui descend très bas et qui te moule.
Okay.
Et moi, littéralement. Toi et
mais de l'enfer.
Ouais, littéralement, je pouvais pas me plier. Parce que sinon, je pense que ça coupait ma circulation sanguine et je tombais dans les pommes, tu vois. Donc, c'était tragique. Et le deuxième truc pire, là, vous allez pas vous en remettre, je pense. C'est un jour, je sais pas ce qui me prend, j'ai envie de me faire un tie and dye. Tu vois, genre, c'était stylé à l'époque.
Oui, bon,
tu bosses sur Hollister, c'est très...
Les années 2000 sont passées par là, 2000-2010.
Exactement. Voilà. Bon. Je me fais un tie and dye et je retourne toute guillerette bosser le lendemain. Et là, ma boss, donc, qui était une ricaine de la côte ouest, me dit « Hey, can I talk to you ?» Je dis genre « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Elle me montre dans le couloir à côté des casiers où on se changeait. Elle me montre et je vois une fiche avec différentes coupes de cheveux. Elle me dit, avec son accent, elle me dit « Est-ce que tu vois ta coupe de cheveux quelque part ?» Et genre, j'étais là. Bah, je sais pas, là, je lui montre le truc avec les cheveux détachés et tout. Elle me dit « Non, 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 non. Your color, enfin, elle me dit genre en gros, enfin ta couleur, est-ce que tu la vois quelque part? J'étais là, bah le truc est en noir et blanc, donc non plus quoi.
La smart.
Non, c'est mais on truc, voit pas bien sur l'image.
Le truc gênant qui dure 10 minutes.
Bien sûr.
Et finalement, elle me dit bah non, mais écoute, on se colore pas les cheveux ici, c'est naturel et tout machin, et puis toi en plus c'est vraiment la moitié des cheveux et tout. Et j'étais là, bon.
T'avais pas le budget pour faire complet, quoi, comme tous les gens qui font un tie and dye. Hein.
Je n'étais qu'étudiante.
C'est moitié prêt.
Vraiment odieux de dire est-ce que tu vois ta coupe de cheveux sur
c'est,
le panneau?
Mais c'est hyper méchant.
Eh ben non, parce que tu n'as pas le droit.
Oui, mais oui, c'est hyper méchant. Elle m'a renvoyée chez moi. Elle m'a dit écoute, tu vas te refaire une couleur ou sinon tu reviens pas bosser. Et je lui ai dit bah, meuf, en fait, enfin, je l'ai pas dit meuf à l'époque, évidemment, mais je lui ai dit écoute, j'ai payé 100 balles ma putain de couleur dans un salon de coiffure alors que j'ai pas de thune. Donc, non, en fait. Et elle me dit bah, je te donne 10 euros, tu vas au Monoprix, tu me prends une couleur, tu me recolores tout ça et tu reviens, sinon tu reviens pas demain. Et il se trouve que j'avais besoin de ce job étudiant, donc je suis allée me faire couper les cheveux, les gars.
Oh, putain, fuck. Horrible.
Et je me suis retrouvée avec un carré très court.
Très, très court.
Oh, c'est voilà. Franchement, les pires méthodes. Wow. À bullying à l'état pur.
De ouf. Une fois, je flânais au boulevard Haussmann quand j'étais genre beaucoup plus jeune. Et en gros, il y a un mec qui m'a dans la rue et qui me dit « Ouais, excuse-moi, est-ce que tu cherches un job, machin et tout ?» Et je me dis « Oh là, c'est le début d'un trafic sexuel ou je sais pas quoi. »
Oui,
non, non, je n'ai pas de
sexuel, carrément.
Parce que le mec était chelou, il me regardait bizarre et tout. Et je le voyais me juger de haut en bas, tu vois. Et en fait, il me dit « Ouais, en fait, je travaille pour une marque, Abercrombie et tout, machin. » Et je me dis « What ?» Et j'y croyais pas. Du coup, j'ai demandé à mes potes de m'accompagner à l'entretien parce que je me dis « C'est le début de la prostitution, ça va être horrible et tout. C'est du trafic d'êtres humains, j'en suis sûr. » Et en fait, non, c'était vraiment un entretien. Mais j'ai pas été pris.
Il faisait vachement ça à l'époque.
Dans la rue.
Sauvage.
Dans la
ouais,
rue,
ouais,
c'est
ouais,
trop
ouais,
bizarre.
J'ai eu ça aussi à Londres, pour le coup, pour Céline. Et je comprenais pas, je croyais qu'il se foutait de ma gueule.
Bon, ça, c'est stylé, cela dit.
Bah, j'étais content sur le papier, mais je comprenais pas ce qu'il voulait. J'étais en mais. Enfin, je comprends pas, je vais pas être pris comme modèle. Déjà, je suis trop petit, puis c'est par agence. Enfin, ça faisait pas sens. Et après, il était vraiment en mode c'est quoi tes projets d'avenir et tout. Et moi, j'étais étudiant, donc j'étais en mode, je sais pas, devenir président du monde, I guess, comme tout le monde. Et, et après, il était en mode parce que tu pourrais vendre des chaussures. Et j'étais vraiment. Et voilà, il m'avait payé un chocolat chaud pas très bon pour me parler de tout ça pendant très longtemps et je comprenais vraiment pas où ça allait. C'était vraiment trop bizarre comme entretien.
Ouais. Et t'as pas accepté?
Bah non, parce qu'il fallait arrêter mes études pour travailler chez Céline dans une ville où je comptais pas habiter plus tard. Donc j'étais un peu en mode non. Trop chelou. Bref, de mon côté, puisque vous me le demandez, ma pire expérience professionnelle, j'ai eu pas mal de choix, entre guillemets, dans le sens où j'ai fait pas mal de choses différentes et toutes pas bien à des degrés différents. Mais en vrai, donc j'ai fait de l'animation, j'ai bossé dans des centres d'appel, j'ai fait de la restauration. Mais parmi les expériences de restauration, il y en a une qui a été particulièrement horrible, tellement horrible que j'ai fait un extra pour tester et j'étais censé bosser là-bas l'été. Et je me suis démerdé par tous les moyens entre cet extra que j'ai fait pour ne pas faire justement ce job d'été qui était dans une brasserie très renommée à Lyon dont je ne citerai pas le nom.
Je sais exactement de quelle brasserie tu parles.
Bien sûr, évidemment, et dans laquelle il fallait globalement que je me plaque les cheveux en arrière parce que j'avais une bowl cut à l'époque et que c'était pas ok. Il fallait que j'ai alors mes chaussures, j'avais pris des baskets noires un peu discrètes, mais je savais que comme c'était de la restauration, c'était mieux de pouvoir avoir des chaussures dans lesquelles on ne décède pas. Et on m'avait dit non, ça va pas le faire, donc on m'avait prêté des chaussures de quelqu'un d'autre dans lesquelles j'avais saigné. Ouais, non, vraiment un bonheur la restauration. Et bah, c'était en fait un service brasserie, ce qui n'est pas le même service qu'ailleurs. Donc il y a une certaine façon de porter certains plateaux qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres types de restauration, avec une clientèle qui ne vous regarde pas en vous reposant l'assiette sale comme ça. Et il fallait faire tout un bail où on se déplaçait avec un espèce de trépied à la con avec le plateau. Il fallait poser le trépied devant soi pour poser le plateau. Et après, on disait, voilà, tu sers la viande toujours. Je ne sais plus si c'était vers le client ou pas vers le client, je m'en fous. Mais bref, il y avait des règles à la con comme ça, toujours servir madame d'abord, machin. Enfin, vraiment un enfer de toutes les bonnes convenances, etc. Et cette expérience-là s'était faite... En fait, le mec m'avait survendu le truc avant, m'avait fait tout un entretien et tout pour qu'on s'en parle. Et moi, j'avais vraiment besoin de thunes à ce moment-là. De toute façon, chaque été, je savais qu'il n'y avait pas le choix, fallait que je bosse 2 à 3 mois quand même, quoi. Et ce type-là m'avait fait miroiter un truc de ouf en me disant, mais tu sais, ici... Enfin, c'est pas n'importe quel restaurant. Enfin, ce que tu vas vivre, c'est vraiment une expérience parce qu'ici, il y a souvent des stars. Et par exemple, je sais pas si tu regardes le foot, mais là, il m'a perdu. Et il m'a cité le nom d'une personne qui est probablement très connue dans le foot, de type Michel Drucker, j'en sais rien. Et il était vraiment en mode, tu sais qu'il vient souvent manger ici.
Hein, tu vas pouvoir le servir, d'accord ?
Et j'étais vraiment en mode... Et du coup, je sais pas, je mange avec ou enfin, il y a un
tu
truc excitant.
Tu vas respirer le
moment,
même air que lui.
Et c'était, ouais, c'était vraiment ça. Genre en mode, je vais avoir le droit de pas me faire dire merci par cette personne. C'est formidable, tu vois. Yes. Et fait, mais tu vas voir, ici, on a une équipe assez cool. Il a dit le F-word dans le milieu professionnel. On est une famille. Et en fait, ils étaient tous horribles, quoi. Genre, j'entends.
Une famille.
Bah ouais, j'entends.
Je vais peut-être pouvoir reprendre la brasserie un jour, Mathis.
MDR. Ouais, la brasserie Grosso. Il serait pas déçu vu comment je cuisine. Mais j'entendrais toutes les dingueries possibles en cuisine parce que bah, c'est la resto. Donc voilà, des dingueries homophobes, misogynes, ouais, racistes, grossophobes, tout ce que vous voulez, que ce soit sur les clients, les collègues, voilà, enfin un bonheur quoi. Et vraiment rendu à la fin de cette expérience-là, j'avais fait un truc que je ne... Évidemment que je ne fais plus maintenant parce
un
que...
Un doigt d'honneur en partant.
Non, du tout. C'est que je n'avais pas signé mon contrat de travail avant de commencer cet extra. Et oui, bêtise. Et en fait, le mec qui était responsable... m'avait dit déjà qu'il y avait un truc où on faisait beaucoup d'heures en dehors des heures de travail du truc, sachant que l'été c'était censé être un 60 heures. Mais labellisé comme un 35 heures, il m'avait dit, mais en fait ça fonctionne pas en heure sup. Non, on a un système un peu différent. Tu vois un gâteau ? J'étais vraiment, il me prend vraiment pour une quiche quoi. Et, enfin, ou tu vois une quiche, il me prend vraiment pour un gâteau, j'en sais rien, les deux. Et il me fait, bah ici en fait on fonctionne par partage de la recette et chacun a des parts selon l'ancienneté. Donc toi tu viens d'arriver, donc tu sais que t'es pigeon numéro 33, tu vois. Et pigeon numéro 33, il va prendre 5% de la recette en plus de son salaire de base. Salaire de base qui du coup pour un 60 heures effectif était de 1 300 €.
Attends, t'étais payé mal pour 35 heures, ouais. et il te faisait bosser 60.
Ouais.
Et il te filait 5% de la recette.
Bah, pas 5%,
en plus,
ça pouvait
quoi.
Être beaucoup plus. Mais oui. Tu sais, il y a des mois, on fait des chiffres de ouf. Ton salaire va pouvoir aller jusqu'à 2 000 €. Et vraiment, il me disait ça. Et moi, à cette époque-là, ça me semblait énorme, 2 000 €, tu vois. Et même si j'avais du mal à me rendre compte de ce que ça représentait, 60 heures. En plus, c'est de la resto, donc c'était en coupure. Donc tu sers sur le service du midi, tu t'arrêtes de bosser 2 heures, ce qui n'est pas assez pour rentrer chez toi, et tu rebosses sur le service du soir. Enfin, vraiment. Plus de vie globalement. Tout ça par 40 degrés parce que c'est Lyon, quoi. Bref, un bonheur et je suis tellement content d'avoir pu trouver à ce moment-là le job justement dans le centre d'appel. Un job improbable dont je vous parlerai peut-être une autre fois qui m'a permis de passer des vacances plus sympathiques
mais
avec la clim.
Cette brasserie, on est d'accord qu'elle est à côté d'une gare ?
Elle est à côté d'une gare, okay, dans un arrondissement.
Comment elle s'appelle ? Vous pouvez pas le dire.
Trop de private jokes de Lyonnais, lyonnaise.
C'est clair.
Ouais, donc au quick, Kalindi, t'es dans les Giants ou pas ?
Bah, tu vois, finalement, on n'est pas mieux servi. Hein. Les clients sont peut-être mieux servis, mais le personnel, c'est pas ça, quoi. Voilà.
Putain, on aura appris des choses. Hein.
Incroyable. Ce LMK est terminé.
Oui. Très, très longue intro.
27 minutes 30 pour l'intro.
Que vous avez de votre côté des commentaires pour enchaîner parce que c'était le principe.
Moi je n'ai pas de téléphone mais j'en parle plus tard donc voilà.
J'en parle plus tard.
Incroyable, ce sera ton kiff de exactement. Pas avoir de téléphone.
Moi j'ai pas de commentaires parce que les gens m'aiment pas.
Et ben non, comme ça au moins on va gagner du temps à
tu
ce niveau-là.
Peut-être oui. Que dans 6 mois je serai toujours. Tu viens d'arriver, tu sais, c'est normal vraiment. Je...
Non c'est normal.
Je n'ai pas de commentaires non plus.
Bon bah voilà.
Et bah écoutez, comme ça on gagne du temps là où on en a perdu finalement. Moi de mon côté, j'ai mieux qu'un commentaire, j'ai le kiff d'un LM Crado qui nous écoute depuis longtemps, qui s'appelle Martin. Et Martin a décidé de nous partager une passion qu'il avait qui va révéler. Donc je vais laisser le suspense et c'est parti.
Coucou LMK, moi c'est Martin et aujourd'hui je voulais vous présenter mon kiff du moment et de la vie en général. C'est Patti Lupone. Patti Lupone, c'est une comédienne, chanteuse et icône américaine. Elle joue principalement dans des comédies musicales, mais aussi au cinéma, dans des films et des séries. Elle est connue aux États-Unis pour avoir interprété des rôles assez importants du monde de la comédie musicale, comme Eva Perón dans Evita, Mrs. Lovett dans Sweeney Todd et Joanne dans Company. Donc dans ses rôles au cinéma, elle a aussi joué dans des séries par exemple de Ryan Murphy comme American Horror Story ou Hollywood. Et plus récemment, elle a joué dans le dernier film de Ari Aster, Boys Afraid. D'ailleurs, c'est un film qui est assez acclamé par la critique. Et par la critique, j'entends bien sûr Kalindi Ramphal. Personnellement, j'ai découvert Patti LuPone via un dessin animé. Mon dessin animé préféré, c'est Steven Universe. Elle y donne sa voix à un personnage qui n'est pas très présent dans l'histoire, mais ça a été suffisant pour qu'elle m'interpelle. Après ça, je suis allé sur YouTube pour regarder et écouter ses performances, on va dire ça comme ça. Et je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Je pense notamment à sa version de The Ladies Who Lunch ou de A Little Priest. Elle m'a suivi pendant mes années lycée, à des moments où ça allait pas forcément, et je la remercie pour ça. Sa voix est magnifique, et même en tant que personne, elle est assez drôle, et genre, il y a des petites anecdotes sur elle qui sont très appréciables. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qu'elle fait. Je vais faire un peu d'autopromo. J'ai une playlist sur Spotify où je compile des musiques d'elle. Ça s'appelle Queen Patty. Queen comme reine en anglais. Et Patty, P-A-T-T-I. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis, bon épisode de LMK. Kiff comme coff.
Merci beaucoup, Martin.
Je suis si content que le kiff comme coff ait été réhabilité.
Kiff comme coff.
J'ai pas la ref.
C'est vieux du
cul. Moi qui avais voulu lancer kiff comme coff à la place de touchez-vous bien le kiff, parce que Jean-Pierre kiff, c'était rigolo d'appeler les gens qui nous écoutaient comme ça. Tous des Jean-Pierre kiff. Voilà, okay. Et ça n'a emballé que moi
non,
et Martin.
Non, bah tu rigoles, j'ai trouvé ça génial.
Ah bah bon, je suis très content.
C'est la base de mon humour, hein. Jeu de mots avec des personnalités pouraves, donc c'est top.
C'est vrai, ça m'a rendu très heureux. Okay, merci beaucoup Martin d'avoir partagé ça. En plus, ça me permet de glisser des personnalités que j'aime, mais c'est pas mon kiff, donc c'est pas ma faute, c'est pas moi qui fais un triple kiff, c'est juste les gens qui ont bon goût, c'est pas moi. J'adore Patti LuPone aussi, ou moi Lupone, je sais pas comment on l'a dit.
Pas du tout.
C'est vraiment une icône de Broadway, et on la voit moins en cinéma, elle est quand même plus rare, mais ouais, elle a fait toutes les scènes, tous les rôles les plus grands, enfin, elle est incroyable. Puis elle a un physique et tout, un charisme, genre une gueule que tu reconnais une fois que tu l'as vue, tu t'en souviens, quoi.
C'est vrai.
Bref, une personne exceptionnelle. J'enchaîne aussi très très vite pour qu'on puisse enchaîner sur la suite sur un petit message boubou parce que ça fait longtemps mais les gens boivent toujours car les gens vont toujours mal et c'est un message boubou de Sonic Desmers qui a également un hâte intéressant. Hello Dildo, voilà, bon je glisse ça là, message boubou.
Salut LMK, c'est pour un message,
on est complètement boubou,
un message réré bourré. On adore vraiment ce que vous faites, genre là, on est entre cops. Et franchement, ça fait trop plaisir d'entendre toutes vos petites recos. Franchement, grosse dédicace à Kalindi, à Mathis, à tous les gens qui sont partis, tous les nouveaux gens qui sont ici à nouveau dans le podcast. On vous aime trop, 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 trop entre copines et vous nous faites trop du bien chaque jour, tous les jeudis. C'est la grande, grande frappe de vous écouter. On vous envoie ce message en direct de Toulouse.
Hi Toulouse.
Hi Toulouse.
Franchement, merci beaucoup pour le bonheur que vous nous apportez chaque jeudi et chaque jour en vrai, parce que c'est tout le temps. Et on aime trop vous écouter. On vous fait des gros bisous.
C'est moi, il avait un phrasé, une prosodie proche d'Alix.
Ah ouais, tu trouves?
Prosodie proche d'Alix, c'est le titre de cet épisode. Incroyable, c'est possible. Peut-être, c'est possible. Moi, j'ai été très rassuré que ce soit entre copines et pas entre cops au sens policier, car je doute que les policiers écoutent LMK.
Peut-être, tu sais pas.
Encore que, qui sait. On a fait un épisode un peu
LMK, ne slidez pas dans mes DM.
C'est clair.
Et non, c'est le moment idéal d'enchaîner sur un élément phare de ce podcast, à savoir le jingle.
Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. Pour en faire les mêmes kiffs. C'est l'heure.
Saint-Valentin.
Il y a une très très belle écoute, hein. Vraiment. Voilà, phrase de théâtreux. J'avais entendu une meuf dire ça à la fin d'une pièce de théâtre. Il y avait une très très belle écoute dans la
ouais,
salle.
Ouais, mais on se dit ça
il
même
avait
entre.
Une très, j'adore très belle dire écoute. Ça. Genre ouais. Les gens ont bien écouté.
Ouais, c'est ça.
Mais tu dis ça ah en fait, tu dis ça aussi entre comédiens quand tu fais du théâtre.
Oui, de
tu
ouf.
Te dis, voilà, belle écoute, machin. Et souvent, on te dit, bah, enfin, moi, c'était mon problème quand je faisais du théâtre, c'était t'as une mauvaise écoute. En gros, tu que sur Watt, tu vois.
C'est surprise.
Bref.
Le moment idéal pour te demander, Marie-Stéphanie, si tu es d'accord pour commencer, quel est ton kiff ?
Oui, je suis d'accord pour commencer. Quel est mon kiff ? Oui, quel est mon kiff ? Alors, mon kiff cette semaine, c'est Monica Lewinsky.
Attention, le kiff qui va suivre parle de tentative de suicide. Si le sujet est sensible pour vous, n'hésitez pas à aller dans la description du podcast où vous trouverez le timecode du kiff suivant.
Alors, mon kiff cette semaine, c'est Monica Lewinsky.
Mmh.
Ou plus particulièrement, son TED Talk.
Ça n'a rien à voir avec l'ex-femme de Bill Clinton.
Si.
C'est elle, hein.
Et justement, c'est pas l'ex-femme de Bill Clinton, c'est l'ex-maîtresse de Bill Clinton.
Ah, c'est ça le bail, pardon.
Et voilà, c'est ça. Et je pense que justement, on va faire un petit récap sur qui est Monica Lewinsky.
Et qui est Bill Clinton, peut-être pour les plus
est
jeunes.
Bill Clinton, finalement.
Souvenez-vous.
Ouais. Pour les Gen Z d'entre nous.
Ouais,
c'est ça.
Ouais. Donc effectivement Monica Lewinsky, peut-être que certains et certaines d'entre vous la connaissent surtout pour ses apparitions multiples dans de nombreux sons, dans beaucoup de musique des années 2000-2010, surtout dans du rap.
Genre c'est son nom qui est cité, c'est pas elle
nom.
Qui fait des
ouais,
elle
ouais,
pose
non,
pas
non,
des feats oui,
mais genre je crois qu'il y a 40 morceaux dans lesquels elle est citée, tu vois, c'est assez énorme.
Pour pas en dire du bien, j'imagine.
Oui, ça sent la misogynie.
Pas toujours, pas toujours.
Et Beyoncé qui a une chanson où elle dit « Tu as Monica Lewinsky partout sur ma robe ». Enfin, c'est...
Ah ouais ? Ah ouais ? Et il y a vraiment Monica Lewinsky partout sur...
Non, quelle naïveté, Marie-Stéphanie.
Mais j'ai loupé un truc, là. Ah mon Dieu, j'ai compris ce que ça voulait dire.
Quand un papa et une maman s'aiment très fort.
Comment on fait les bébés, Mathis ? Raconte-moi. Putain, j'avais pas cette réflexion. Ok, bon, donc oui, il y a. Ah bah oui, mais du coup, je comprends mieux parce qu'il y a une histoire de robe dans cette histoire de Monica Lewinsky. Pourquoi c'est mon kiff, Monica Lewinsky ? C'est pas particulièrement son histoire, même si c'est l'un des scandales sexuels les plus retentissants de on va dire, les dernières 30 années.
Avec Julie Gayet et François Hollande sur le scooter.
Oui, mais c'est très local, c'est très franco-français.
C'est très local et on n'a pas eu de détails sur leur vie sexuelle.
On n'a pas
oui,
eu de détails.
Oui, je pense. Ça suffisait, ouais. Le scooter, c'était déjà trop.
Je vais y revenir, mais pourquoi c'est mon kiff ? Parce que j'ai découvert donc, ce TED Talk qu'elle a fait il y a 8 ans, qui était sa première prise de parole après, en fait, je crois qu'elle a arrêté littéralement de s'exprimer dans les médias et ailleurs au début des années 2000, donc ça faisait très longtemps qu'elle ne s'était pas exprimée. Et c'est un discours hyper, hyper puissant sur la résilience, enfin sur le cyberharcèlement et sur la résilience. Mais je vais y revenir, donc... Pour le petit topo, l'histoire de Monica Lewinsky, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Monica Lewinsky a été rendue connue, enfin est devenue connue parce qu'elle a été la maîtresse donc de Bill Clinton, qui était le je ne sais pas combien dième président des États-Unis. Je ne sais pas combien, il y en a eu trop.
Si tu sais de tête, Mathis.
Non, Mathis, je sais qu'il le présentait en discours en disant « And now the,
bah oui.
The president of the United States !»
J'ai voilà. Ouais. 86 en tête, mais j'en sais rien.
86.
Ça me paraît... Non, mais ça me paraît énorme. Je pense que
non,
c'est,
je crois que c'est ça.
C'est possible, hein.
Pour moi, c'est ouais, 86.
Dans les 60, ok.
Ouais. Moi, j'aurais dit 90 ou un truc comme ça, mais je pense que c'est parce que c'est dans les années 90. Donc,
wow,
le cerveau...
Bon, maybe. Ouais. Maybe. À checker, du coup. Et donc, Bill Clinton a été président des États-Unis de 93 à 2001. Ne vous y méprenez pas, j'ai révisé, évidemment, puisque je suis née en 92. Donc, je savais évidemment pas qui était
42e président.
Ouais, j'ai dit,
bah voilà.
Proche des 50.
On était bon dans les estimations.
Vous aviez doublé le truc.
De ouf.
Mais bon, ça fait quand même beaucoup.
Parce qu'on comptait les remplaçants, nous, on y va à fond, on compte tout le monde.
Voilà. Donc, Monica Lewinsky était stagiaire à la Maison-Blanche. Donc, à l'époque, c'était en 94 ou 95, elle était stagiaire, elle avait 22 ans. Et en tant que meuf de 22 ans qui côtoie le président des États-Unis à ce moment-là, elle se dit « Ah, bah, il est quand même canon, ce mec, qui a je ne sais combien d'années de plus que moi ». Se crée entre eux deux une relation au départ. Tout était platonique et ensuite il y a eu des relations sexuelles. Pardon, tu pourras couper ça.
Moi, je peux l'essayer. Peut-être.
Tu peux aussi. Je l'ai beaucoup fait pendant le truc, donc ça va être très simple. Donc ils ont eu une relation pendant à peu près 2 ans, je crois, entre 96 et 98. Et il se trouve que ce très cher Bill Clinton avait sur le dos une affaire assez louche immobilière avec sa femme. Enfin bref, ils étaient un juge enquêtait sur eux pour une affaire immobilière.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Immobilière louche et le juge ne trouvant rien pour confondre Bill Clinton s'est dit je vais enquêter sur ses mœurs sexuelles sachant que Bill Clinton avait déjà trompé, oui parce que c'est le mari d'Hillary Clinton aussi, hein, je remets les choses pour qu'on comprenne mieux, il avait déjà trompé sa femme avec d'autres jeunes femmes donc le juge s'est dit je vais certainement trouver des choses de ce côté là. Entre-temps, Monica Lewinsky, enfin l'équipe du président se rend compte que Monica Lewinsky tourne un peu trop autour du président et du coup il l'éjecte, il l'envoie au Pentagone histoire de calmer un petit peu un potentiel scandale. Sauf que une de ses collègues slash amies, je sais pas trop si on peut appeler ça une amie, l'avait enregistrée dans des conversations téléphoniques dans lesquelles elle racontait.
Une collègue plutôt.
Ouais, voilà. Une collègue.
On retire le statut d'amie ici.
Ouais. Dans des conversations téléphoniques où elle disait j'ai joui, etc. Enfin, je vais vous passer les détails en vrai parce que c'est assez sordide d'avoir enregistré des trucs pareils.
De ouf.
Et sa pote, au moment venu, enfin sa pote, sa collègue qui, elle, détestait les Clinton, au moment venu, a remis ses enregistrements à un juge. Et en fait, ces enregistrements ont leaké. Donc pendant de très longs mois, l'opinion publique s'en foutait de cette affaire qui traînait un petit peu autour de Bill Clinton. Et dès qu'il y a eu une histoire de scandale sexuel, forcément, les gens s'en sont épris, on va dire. Et en fait, le scandale a éclaté et c'est... Alors, je suis incapable de le vérifier. Ce serait bien si quelqu'un pouvait le faire en vrai. Mais Monica Lewinsky, elle, affirme qu'elle a été la première personne au monde à subir un harcèlement en ligne. Je pense que c'est pas loin d'être faux. Ça reste à vérifier. Mais le fait est qu'elle a été harcelée tout de suite dans la foulée, en fait, de toutes parts. Elle a été traitée insultée, je vous passe les détails, mais en gros, c'était la catin, quoi.
Ouais.
La catin qui avait séduit le président, quoi. Et voilà, donc énorme cyberharcèlement. Pour les détails de comment s'est finie l'affaire, il y a eu un vote d'impeachment contre Clinton, donc pour le destituer. Le vote a été négatif, il n'a pas été destitué, bref, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu plus les détails de l'affaire. Je pense que j'en ai déjà pas mal dit. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, Clinton est resté président des États-Unis et Monica Lewinsky, elle, en fait, elle a signé un accord de confidentialité pour ne pas prendre la parole en public. Au final, elle a été réduite au silence. Et puis, elle a disparu, on va dire, des radars. Ce qui fait que de cette affaire, on se souvient de la stagiaire qui s'est tapée le président, le Monica Gate, comme on appelle ça. Mais en fait, c'est tout. Et elle a finalement pris la parole donc une première fois dans un très très long papier publié sur Vanity Fair US dans lequel elle raconte ce qu'elle a vécu après. Et elle en a fait un TED Talk aussi qui est vraiment ultra puissant, ça dure une quinzaine de minutes. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Elle raconte en fait la suite de sa vie. Enfin, pour elle, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire trouver un taf. Quand en fait, t'as été tout simplement étiquetée maîtresse du président des États-Unis. trouver un taf, nouer des relations avec les gens. Et puis aussi l'impact que ça a eu sur son entourage, sur sa famille. Elle raconte, c'est hyper glaçant, mais elle raconte que pendant plusieurs années, sa mère ne lui laissait pas prendre de bain ou de douche seule en fermant la porte parce qu'elle avait peur qu'elle se suicide.
Putain.
Donc c'était, j'ai pas mis de trigger warning avant de parler
on
de ça, mais peut-être qu'il
oui,
faudra le rajouter.
Au montage.
Donc bref, c'est vraiment glaçant, mais en même temps, et c'est pour ça que c'est mon kiff, en même temps, c'est aussi hyper encourageant et je trouve que c'est un discours qui porte beaucoup d'espoir, notamment pour les personnes qui sont victimes ou ont été victimes de cyberharcèlement, parce qu'aujourd'hui, du coup, elle se présente vraiment comme défenseuse des personnes qui se font harceler, cyberharceler, et elle défend cette cause-là quand elle peut. Je ne sais pas exactement de quelle manière, ce serait à vérifier aussi, mais. Mais bref, c'est un discours qui est hyper puissant et ça montre, je trouve, la résilience dont elle a fait preuve et la résilience, au final, dont chacun et chacune peut réussir à faire preuve. Et c'est hyper important parce que ces dernières semaines, on entend énormément de cas sordides de jeunes, très jeunes, ados qui se donnent la mort parce qu'il et elle se faisaient harceler sur les réseaux sociaux. Et je pense que, autant pour les personnes qui se font harceler que les harceleurs aussi, et les familles, ce serait vraiment utile de porter jusqu'à eux et jusqu'à elles ce discours. Parce que vraiment, ça montre qu'il y a un espoir qu'on peut s'en sortir, autant quand on est harcelé et même quand on est harceleur aussi, qu'on peut arrêter. On peut prendre conscience qu'on l'est et qu'on peut arrêter d'harceler. Donc voilà, et je vous renvoie aussi vers un podcast du coup avec Dua Lipa. Elle a un podcast, je ne savais pas. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il y a un épisode qui date de 2022 avec Monica Lewinsky. Et pareil, hyper intéressant à écouter aussi.
Trop bien.
Il y aura le lien dans la description.
Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que si parmi... les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont cyberharcelées, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez être aidé et que la première des choses pour être aidé, c'est de commencer par en parler à qui vous pouvez peut-être en parler, des amis ou de la famille. Voilà, c'est tout.
Et il y a une super réseau qui fait un super travail qui s'appelle Femmes versus cyberharcèlement, qui peut vous donner des ressources, vous aider, vous aiguiller, vous accompagner.
Toutes les ressources sont dans la description comme d'habitude du podcast.
C'était pas très joyeux comme
ça. Ah non, mais c'était très bien.
Non, mais
ça donne très envie de le regarder parce que je l'ai jamais entendu s'exprimer elle-même, en fait. Donc,
Moi non plus.
Donc,
toujours du discours rapporté. Enfin, on parle à sa place.
On était vraiment tout petits, donc c'est très confus ce qui s'est passé à l'époque et les répercussions que ça a pu avoir sur sa vie à elle.
Merci beaucoup, Marie-Stéphanie, pour ton kiff. Du coup, vous avez tous les liens qu'on a mentionnés dans la description. Et Anthony, c'est quoi ton kiff?
Ah ouais, on change de sens. Ok.
Bien faire au hasard la Matisse.
Oui, c'est n'importe quoi.
Non, mais je savais que Kalindi, elle allait râler si je la mettais en première. Donc, voilà.
Ah, donc on fait en fonction de Kalindi Ramphal.
Absolument. Je fais en fonction de la personne qui râle le plus fort dans les micros quand j'ai un casque. Je suis désolé de protéger mes oreilles.
Moi, je sais plus dans quel sens tournent les aiguilles d'une montre en attendant.
Alors, il n'y a plus de saison.
Eh bien,
je vais à cette époque.
Mon kiff, c'est une femme artiste qui s'appelle Ilma Afklint. C'est une artiste peintre. Elle est surtout connue pour sa peinture. En fait, j'étais à Londres ce week-end et l'un des musées que j'adore le plus là-bas.
J'ai vécu à Londres.
Oui, merci de cocher ton bingo, Matisse. Parlons de Camille et de Ruby. Bref, donc Ilma Afklint, qui est une artiste suédoise, en fait, j'étais à Londres ce week-end. J'adore le Tate moderne et du coup, j'y suis passé. Et il y avait une exposition. J'étais avec mes deux meilleurs amis et en fait, il y avait une exposition où on a juste regardé vite fait. Et comme moi, je suis bigleu, j'ai juste vu Mondrian et Klint. Et en fait, mon esprit était sur Klimt avec un M. Et en gros, et surtout mes potes ont vu Klimt aussi. En fait, elles ont dit ah, on va voir ça et tout. J'ai dit, ouais, grave. Et en fait, on y allait sans trop regarder, un peu au hasard. Et en fait, on se rend compte que, première salle, je vois des she, her, et je fais genre, attendez, quoi?
Clint, c'est un homme dans ma tête. Et du coup, je comprenais pas. Et en fait, c'était Clint avec un N comme Nina. Et donc voilà, c'était pas du tout l'artiste à laquelle on s'attendait. Et c'était une excellente, excellente surprise. Et tout de suite, quand j'ai vu cette œuvre, j'ai compris qui c'était. Et du coup, j'ai adoré. Mais pourtant, l'affiche, j'étais à l'ouest comme d'hab, je ne vois rien.
C'est vachement pratique pour se faire une carrière d'être presque homonyme. Je vais vraiment me m'appeler Olivier Pau et signer des mises en scène et voir s'il y a des gens qui viennent.
Je sens que tu t'appelles pas Thierry Frémaux.
Ouf! Et du coup, donc c'était une exposition qui vient de commencer, qui est jusqu'au 3 septembre au Tate Moderne, qui met en regard l'œuvre de Av Klint avec celle de Mondrian. Pour les personnes qui ne connaissent pas Ilma Av Klint, c'est une artiste qui est vraiment ultra, ultra, méga pionnière. C'est incroyable de regarder sa vie, finalement. Et elle est assez méconnue, alors que c'est une pionnière de la peinture abstraite, en fait, de l'abstraction dans l'art. Et donc, elle est née en 1862 à Stockholm. Elle est morte en 1944 d'un accident de la route. Elle est morte quasi méconnue, enfin quasi inconnue, pardon, du grand public. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire rapidement, sans faire toute sa biographie? C'est que du coup, bah, c'est une artiste suédoise, je l'ai déjà dit, surtout peintre. Elle a étudié, elle a grandi dans une famille avec beaucoup d'ingénieurs, d'officiers, de cartographes. Et donc, il y avait beaucoup de sciences autour d'elle. Et elle s'est intéressée à beaucoup de choses, notamment la botanique, les mathématiques et la peinture, évidemment. Donc, elle a étudié la peinture à l'École technique artistique de Stockholm, mais aussi aux Beaux-Arts de Stockholm. Et elle gagnait de l'argent plutôt en faisant des peintures figuratives, académiques, des portraits, des paysages, etc. Et donc en fait, de son vivant, elle était plutôt connue. Elle n'était pas connue en fait, c'est une artiste mineure de peinture figurative. Et après sa mort, même chose. Sauf qu'en fait, de son vivant, elle était extrêmement passionnée de mysticisme. En gros, sa sœur est morte quand elle était assez jeune. Ilma Av Klint avait 17 ans à la mort de sa sœur. Et elle était hantée par cette disparition. Elle a commencé à s'intéresser au spiritisme, à être médium, à tenter d'être médium, et à connecter avec l'au-delà, avec l'invisible, pour connecter avec sa sœur, en fait, disparue. Et de là, elle a commencé à pratiquer différentes choses avec notamment des copines à elle. Elle formait le Club des Cinq, littéralement. Mmh. En suédois, ça sonne différemment. Mais je ne m'y risquerais pas.
Vas-y. Ça va maintenant.
Et en gros, elles essayaient de connecter avec l'au-delà. Chacune avait une personne qu'elle voulait absolument, avec laquelle elle voulait absolument dialoguer. Et elle, c'était sa sœur, notamment. Et au fur et à mesure, en fait, elles ont commencé à pratiquer de l'écriture automatique, des dessins, des croquis, mais aussi de la peinture. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se diriger vers l'abstraction, qui n'existait pas en peinture occidentale. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, la peinture abstraite et l'abstraction, ça existe ailleurs qu'en Occident depuis belle lurette. Mmh. Mais en Occident, c'était quelque chose de complètement inconnu, enfin de non pratiqué jusqu'au XXe siècle. Et du coup, là, on est à peu près en 1906 quand elle se met à 44 ans à faire les premières peintures abstraites de l'histoire de l'art occidental, quoi. Et donc, c'est une femme qui a en quelque sorte inventé l'abstraction en peinture occidentale. Une femme qui est très très peu connue du grand public, donc Ilma Av Klint. Donc en fait, elle fait plein de choses qui sont inspirées de la spiritualité, du spiritisme. C'est une peinture sous influence spirituelle. Et elle, en fait, elle est un peu comme une prophète qui essaye de montrer l'invisible, de servir de passeuse. Et c'est assez extraordinaire. Enfin, c'est difficile à décrire parce que c'est abstrait, encore une fois. Mais il y a des motifs assez récurrents, comme des cercles, des formes presque géométriques aussi, beaucoup d'arabesques, des couleurs assez vives, des motifs qui peuvent ressembler à des lettres de l'alphabet grec ou de l'alphabet latin. Et aussi des choses que j'ai adorées. Bon, c'était un peu figuratif pour le coup, mais c'était des formes de spirales ou de coquilles d'escargots. Il y a aussi des cygnes. Et voilà. Après, il y a aussi des œuvres qui s'appellent cygnes, comme le volatile, hein, C-Y-G-N-E. Mais ce n'est pas du tout un volatile qu'on va voir. Ça va être un cercle avec des tranches de camembert, enfin un graphique en camembert, en quelque sorte. C'est vraiment très, très vial dit comme ça, mais c'est vraiment somptueux en réalité.
Elle faisait des prédits, quoi.
Et voilà. Et en fait, ce qui est assez intéressant de se rendre compte aussi, c'est donc l'après, ce qui est devenu son œuvre post-mortem, c'est que, en gros, elle a coffré toute son œuvre et elle a donné comme exécutant testamentaire, son neveu, et elle, avec la consigne de ne surtout pas ouvrir ses œuvres, en tout cas pas. En fait, il avait comme consigne d'ouvrir ses œuvres seulement 20 ans après sa mort à elle. Et donc, 20 ans après, il a ouvert ses œuvres et il s'est rendu compte que, bah, elle peignait de manière abstraite, quoi. Et on la connaissait comme artiste mineure de figuratif. Et en fait, elle faisait aussi de l'abstraction, qu'elle n'avait jamais, jamais, jamais exposée. Et donc, en fait, il a commencé à en parler autour de lui. Et petit à petit, elle a commencé à acquérir une petite notoriété. Et parce que jusque-là, en fait, on avait plutôt comme à l'idée que les personnes qui avaient inventé de l'abstraction en peinture occidentale, c'était Kandinsky, Malevich, etc.
Des mecs.
Du coup, là, sa première expo majeure dans les années 80, en 86, ça s'appelle The Spiritual Art au LACMA à Los Angeles. Et ensuite, il y a d'autres expositions sur l'abstraction, voilà, mais dont elle est souvent effacée, elle est souvent omise, parce qu'on la connaît pas tant que ça. Et petit à petit, bah, elle se fait un nom, post-mortem, évidemment. Moi, c'est en 2014 que j'avais entendu pour la première fois parler d'elle à travers la mode, parce qu'elle avait inspiré une collection de Acne Studio, qui est une marque suédoise. Et voilà, du coup, j'ai trouvé ça assez extraordinaire de tomber sur son œuvre un peu par hasard. Et ça en dit long aussi sur les inégalités de genre dans la peinture et dans l'art en général, parce que vraiment, on a vu Mondrian, on y allait tête baissée. Et en fait, il y avait Klimt à côté. En fait, on ne s'est même pas posé la question de « Ah, mais c'est quoi le rapport entre Mondrian et Klimt ?» Et en fait, c'était Klimt avec un N comme Nina, encore une fois. Et du coup, vraiment... mes copines, elles ne les connaissaient pas. Moi, je connaissais à peine. Et c'était à cause de grâce à la mode. Et vraiment, ça a été une claque, quoi.
C'est peut-être le bon moment de faire de la publicité pour ton livre, Marie-Stéphanie.
De toute façon, dès qu'on va parler d'art et de femmes, je vais faire un petit placement de produit, bien sûr. Évidemment. Non, mais est-ce que tu as terminé?
Ça vous embête si on coupe la clim?
Non, pas du tout. J'attendais que Anthony ait terminé pour poser la question.
Merci beaucoup.
Ouais, j'allais juste ajouter que.
J'ai pas trouvé de jeu de mots à faire avec le nom de l'artiste et là. Bon, bref, la clim.
Non, j'allais juste dire qu'elle est notamment très très connue pour une série de toiles qui s'appelle Primordial Chaos. Et surtout sa série Temple, voilà, c'est ça. Où en fait, il y a énormément de tableaux qui décrivent en quelque sorte le cycle de la vie, mais de manière abstraite. Donc c'est assez déroutant. Mais moi, j'ai cru reconnaître des spermatozoïdes et des ovules. Et mes copines qui sont médecins, elles m'ont dit « Mais pas du tout, Anthony, c'est pas comme ça que ça marche, la division des cellules. » Elles m'ont fait une leçon d'anatomie et de biologie humaine. C'était fascinant, dans les couleurs du Tate moderne en français. C'était assez fun. Et sinon, j'ai adoré... Enfin, j'ai trouvé ça assez drôle parce que souvent dans l'art contemporain aujourd'hui, on voit beaucoup de trucs qui s'appellent sans titre. Et elle appelle des choses de manière complètement non intuitive. Elle va appeler étoile à cette branche, quelque chose qui n'est pas du tout une étoile à cette branche, mais des arabesques abstraites. Ou alors le cygne, qui est en fait un cercle en forme de camembert. Enfin voilà, du coup, c'est assez drôle aussi à ce niveau-là. Et enfin, si vous n'allez pas à Londres de sitôt au Tate Modern avant le 3 septembre, ne vous inquiétez pas, il existe plein de peintures à elle dans d'autres musées d'art moderne partout dans le monde. Et aussi, vous trouverez des documentaires sur YouTube, notamment, elle a une rétrospective au Guggenheim en 2019 qui a été majeure. Et ça a été d'ailleurs l'expo la plus visitée ever du Guggenheim. Et du coup, il y a un documentaire assez intéressant qui dure une quinzaine de minutes sur YouTube, qui est disponible gratuitement. Donc voilà, vive YouTube. Et là, j'ai terminé.
Et là, je vais faire mon placement de produit. Non, en vrai, je trouve que Ilma Aflin, c'est vraiment l'exemple classique de comment l'histoire a tout simplement balayé le travail d'une femme. Alors après, avec les particularités que tu disais, Anthony, puisqu'elle a eu son... Elle avait coffré une partie de son travail. Mais quand même après l'expo de 86, pendant encore longtemps... On rapportait la paternité de l'abstraction à des hommes, en fait, et qu'une brochette d'hommes. Et même à partir du moment où les historiens, historiennes ont commencé à dire « Attention, parce qu'en fait, finalement, c'est une meuf qui était à la fondation qui a vraiment créé les premières œuvres de ce mouvement. » Il y avait encore beaucoup de scepticisme, de gens qui disaient oui, mais c'est qui, mais non, mais finalement Kandinsky, machin, enfin ça a pas été si facile que ça. Et effectivement, petit placement de produit, moi j'en avais parlé dans un épisode du podcast Femmes d'art, du coup, qui est mon podcast sur les femmes et l'art, qui a été publié en bouquin. Alors elle est pas du tout dans le bouquin, mais elle est dans, je sais plus si c'est l'épisode 22 ou je sais plus, quelque chose comme ça.
Je le mettrai en lien.
Tu le mettras en lien.
Ouais.
Donc n'hésitez pas à aller voir et par ailleurs, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, à aller écouter tous les épisodes, à vous procurer le livre qui s'appelle Femmes d'art également et à noter dans votre agenda que je publie un autre livre. Est-ce que j'avais dit déjà dans le dernier podcast,
oui,
que c'était
j'avais dit que c'était utilisé,
une BD.
Oui.
Ah,
oui.
Ben, voilà. Bah, comme ça.
Et tu peux le redire, il faut m'attraquer.
C'est une BD et notez vraiment dans votre agenda, puisque c'est loin. La sortie est prévue pour octobre 2024. Mais je ne cesserai de faire des petits reminders dans LMK. Et dernière chose, il y a aussi une vidéo très chouette de Margot Brugvin, qui est une créatrice de contenu sur Instagram notamment, mais ses vidéos sont aussi publiées sur YouTube. Elle fait une fois par mois des portraits de femmes artistes en vidéo. Elle avait consacré une vidéo à Ilma Afklint il y a genre un an et demi, un truc comme ça. Mais vidéo très complète, très fournie. Très chouette à aller voir aussi et accessible pour le coup gratuitement. Sur YouTube ou sur Instagram.
Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ce kiff super cool et qui nous permet d'apprendre plein de choses. Et vous avez les 47 000 liens dans la description. Kalindi, c'est quoi ton kiff ?
Bah, écoutez, je suis un peu embêtée parce que je vois que tout le monde a super bien préparé son truc. Il y a beaucoup d'informations. C'était très complet.
C'était un week-end où ton kiff ? Dis-nous.
Moi, mon kiff, c'est le téléphone mobile intelligent, qu'on appelle communément un smartphone, en fait. Car j'ai un iPhone, comme tout le monde, dont je ne connaissais pas, dont je n'arrivais pas à saisir la valeur avant que hier. Oui, parce que donc hier, j'ai pris pour la première fois un vélo dans Paris. Alors, c'est pas vrai, c'est pas la première fois.
Félicitations.
C'est la première fois en 10 ans. Hier, je fais un podcast et j'ai ma copine Louise qui me dit, bah, tiens, je vais prendre le vélo. Je lui dis, ah bon, tu prends quel vélo? Elle me dit, bah, je prends Lime et tout. J'étais là, ah bon. Mais dis-moi en plus. Impression de pas vivre
vélo,
dans le monde.
Ça a combien de roues finalement?
Et je lui dis, ah ouais, mais ça coûte combien? Et tout. Elle me dit, télécharge, c'est super. Je télécharge l'appli, je vois qu'il y en a un en bas de chez moi. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce monde incroyable dans lequel on vit et je connaissais pas?
Et oui.
Et donc, je prends. Pas débile, je prends le vélo à 18h, donc heure de pointe, pour rejoindre le 18e arrondissement de Paris à Levallois-Perret, qui est à l'ouest. Et donc, il faut que je me tape, pour les non-parisiens, les Maréchaux, un endroit de l'enfer où t'as toutes les portes pourries de Paris avec des camions partout qui veulent ta mort. Et donc, je décide de prendre le Lime, je prends mon petit vélo et là, je vis ce qui est sans doute dans mon top 5 des meilleurs quarts d'heure de mon année. J'ai fait un petit... Sur mon vélo, j'étais la plus heureuse. J'avais les cheveux au vent, j'avais une jupe vraiment très très courte, ce qui fait que tout dépassait. Bon, c'était pas très pratique, mais finalement, c'était un très bon moment. Et donc j'étais là sur mon vélo, j'ai bien fait attention, je me suis arrêtée au feu rouge, enfin j'étais ravie.
Et je là, cherche le lien avec le téléphone, j'ai vraiment hâte que ça arrive.
Et là, je prends un Dodan, parce que moi j'ai pas mon permis de conduire. Donc, et je fais pas de vélo, donc je connais pas vraiment les trucs de la route. Donc j'avais pas compris qu'il fallait ralentir avant ce que j'apprendrais plus tard, s'avérait être un Dodan. Donc je le prends à fond quoi. Et là, donc décollage, Fast and Furious du
T'avais
vélo.
T'avais pas de casque ?
Pardon ?
T'avais
ah non,
pas
j'avais
de
pas de casque. Bah non, parce que j'ai pris dans la rue, tu vois. Donc là, mon téléphone saute de mon sac et retombe sur mon ordinateur. Bon bah, jusque-là, pas de soucis. Je vais à Porte d'Anières, machin, je veux garer mon vélo. Je regarde mon téléphone et là, il était complètement détruit. Aux deux tiers rongé par des espèces de filaments comme ça de couleur. Donc là, vraiment, il me restait un demi-tiers quoi, d'écran, un cinquième d'écran, comme sixième, je sais pas faire de compte, qui marchait. Et donc, c'était horrible parce que là, à ce moment-là, il fallait que je rende mon vélo avec l'option scan. Donc, je voyais rien. Donc, j'étais comme ça. Là, ma mère m'appelle. Je lui dis, maman, j'ai eu un accident de vélo. Ce qui est faux, finalement. Je dis, j'ai pété mon téléphone sur le vélo.
Juste sur un Dodan.
Il est l'excès. Pas tombé de ton sac, en plus.
Mais non, il est juste tombé contre mon ordinateur. Et là, ma mère me dit, quoi? Mais tu fais du vélo dans Paris sans casque? Mais tu sais même pas faire de vélo? Je lui dis, bien sûr que si, je vais faire du vélo. En fait, elle me dit, oui, mais c'est scandaleux. Je lui dis, mais toi, tu fais du vélo dans Paris tout le temps. Elle me dit, oui, mais moi, j'ai un casque. Ça fait 25 ans.
Mais donc, la fonction téléphone fonctionnait.
Le téléphone, il fonctionne très bien. C'est juste l'écran qui est pété, tu vois. Et donc là, elle me dit, oui, ça fait 20 ans que moi je fais du vélo. Donc je lui dis, mais attends, pour avoir fait 20 ans de vélo, faut bien que t'aies commencé à un moment donné. Donc laisse-moi essayer le Lime. Enfin, franchement, à part cette mésaventure, j'étais, mais l'éclate, quoi. Je me suis dit, c'est ça que les gens vivent, en fait.
T'es vraiment hors sol, Kéline, ça me tue.
Tu prends quoi d'habitude, l'hélico ou...
Elle se téléporte.
Non, mais tu vois, d'habitude, je marche ou en fait, je sors pas de mon quartier. C'est surtout ça.
Oui, tu marches, tu vas de l'autre côté de la rue, quoi.
Ah ouais. Puis je vais toujours aux mêmes endroits. Puis tous mes amis quasiment habitent le 18e. Et puis, bah, quand...
Dans seul les secteurs.
Et donc, bah, sinon, bah, je vais dans le créa, où je travaille. T'as dit quoi ?
Dis-moi que t'es créa sans me dire que t'es créa. Genre,
c'est vraiment clair. Et bref, parfois, je vais chez des amis ou ailleurs, tu vois. Mais bon, j'y vais en métro, voilà. Mais donc là, j'ai découvert ce truc-là. Ça aurait pu être ça, mon kiff le vélo. Mais bon, finalement, c'est avoir un téléphone. Pourquoi ? Parce que depuis hier soir, que donc je n'ai plus de téléphone, ma vie n'est que enfer. Vraiment, c'est un enfer. Je ne sais pas comment on a fait toutes ces années pour vivre sans smartphone, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que chaque élément de l'existence était une épreuve pour aller alors donc déjà, je suis tombée sur une foultitude d'incompétents depuis que j'ai cassé mon téléphone, c'est-à-dire que donc hier soir, j'appelle un gars réparateur de mobile dans le quartier de ma mère, parce que j'étais chez ma mère. Et il me dit « Oui, bah, j'ai pas l'écran d'iPhone 11, je le commande. » Je dis « Ok. Venez demain à 11h. Aujourd'hui à 11h, j'y vais. » Et j'appelle et je dis, parce que j'ai quand même pas un grand nez pour rien, je lui dis oui, vous avez reçu ma pièce? Et il me dit, non, j'ai pas reçu votre pièce, bah venez à 13h. Je dis là, non, mais en fait, c'est pas de 11h à 13h, enfin, faut que je travaille et puis il faut que je parte, enfin, j'ai des choses à faire de ma vie, quoi. Je lui dis, bon, écoutez, laissez tomber, j'appelle quelqu'un d'autre. Donc j'appelle quelqu'un d'autre et qui me dit, bah venez maintenant. Donc j'y vais maintenant, je marche 25 minutes, j'arrive et le gars me dit, ah, mais j'ai pas la bonne pièce. Je lui dis, bah attendez, je demande pas un écran de Samsung F2, mes couilles, j'en sais rien, tu vois, je demande un putain d'écran d'iPhone 11. C'était il y a 2 ans, l'iPhone 11, ça me semble pas quand même déconnant d'avoir cette requête, tu vois. Je lui dis, vous êtes un magasin de téléphone, il y en a partout, vous avez bien un écran qui correspond au mien. Bon, bref. Et j'ai fait une 15, la vérité, la vie de ma mère, hein. Non, peut-être pas 15, c'est pareil, la vie de ma mère. Allez, au moins 8 magasins. Magasin de
pas
téléphone
mal.
Et en plus ils me disent oui, l'écran original c'est 240 euros. Je dis mais vous foutez de ma gueule, 240 euros, c'est le prix de mon téléphone sur Back Market. Pas mettre 240 euros dans un écran et vous me dites que ça prend 10 minutes à faire. Excusez-moi, ça fait cher l'air, tu vois. Donc j'étais scandalisée. Du coup, j'ai fini par trouver un gars là-bas derrière, faut que j'y aille dans pas longtemps, quoi, qui me dit ok pour 75 euros. Bon, là je trouve que c'est un prix correct. Mais bon, ça a été une journée. Et donc oui, donc pour ça, donc pour trouver ce gars là parce que moi, je l'ai appelé. Mais après, il fallait que j'y aille. Je ne savais pas où était la rue de Cléry, dans le 10e arrondissement de Paris. Ou le 2e, je ne sais jamais. Et donc, j'ai dû dessiner un plan à la main avant de partir.
Non. Avec...
Mais pourquoi tu ne demandes pas aux gens dans la rue?
Hein?
Pourquoi tu ne demandes pas aux gens dans la rue?
Bah, attends.
Il y a des parce plans que... sur les bus,
bah,
sur les trucs.
Mais oui,
de
mais
bus.
Tout ça, en fait, j'ai redécouvert une ville aujourd'hui incroyable. Et donc, je suis avec mon post-it. Donc, je sors du métro, je me dis...
Donc t'as dessiné, t'as croqué, t'as fait un croquis, t'as croqué.
Non mais c'est un petit truc sur un post-it, tu vois. Et donc je le prends et en fait aucune rue qui m'entourait ne correspondait à ce qu'il y avait écrit sur mon petit truc. Donc je me dis j'ai dû me gourer. Donc je rentre chez Gilbert Jeune et je dis excusez-moi à un homme qui avait l'air de bien connaître Paris.
Excusez-moi mon bon monsieur.
C'est quoi un homme qui a l'air de bien connaître Paris?
C'est un homme de 40 ans avec les cheveux longs qui fait Paris, bobo parisien, tu vois. Okay. Donc je m'arrête et je lui dis excusez-moi. Et là je vois il est un peu content et je dis tiens.
Une demoiselle en détresse.
Et moi je peux pas m'empêcher de flirter. Donc je suis là oui bonjour en fait voilà. Et je lui dis bon excusez-moi, c'est terrible ce qui m'arrive. Je lui dis j'ai cassé mon écran, je dois aller le faire réparer, mais pour le faire réparer, il faut que je trouve la rue. Est-ce que vous connaissez la rue de Cléry? Il me dit, bah non, mais attendez, on regarde sur mon téléphone. Donc là, regarde sur son téléphone. Il m'indique un lieu, je me trompe parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Je re-rentre dans une librairie, je dis la même chose à un homme bien moins charmant. Et là, bon, il m'a bien indiqué, j'ai pu aller chez cette personne. Je suis arrivée en trompe, je dis excusez-moi, par pitié, sauvez ma vie. Je pars dans 3 jours en Sardaigne et je peux pas partir sans téléphone. Voilà, donc c'est ça. Et donc j'ai pris conscience eh bien, du privilège extraordinaire que c'est d'avoir un téléphone et du luxe que c'est et du bonheur que c'est d'avoir tout à sa portée, à portée de clic, quoi.
Ouais. T'as beaucoup de chance que la fonction téléphone fonctionne encore.
Bah, de ouf. Après, non, mais alors j'ai découvert un truc fantastique, ça aurait pu être mon kiff, WhatsApp sur l'ordinateur.
Ah, mais c'est, oui, ma vie. C'est la vie.
Non, mais incroyable.
Moi, je passe même mes coups de fil avec
génial.
Mon ordi.
Bah ouais, mais c'est ça. Bah donc hier, je télécharge sur les conseils de mes amis. Et mais bon, en fait, on pense pas, mais aussi la fonction réveil, bah c'est difficile.
Ouais, c'est chiant.
Mais en revanche, comment t'as fait pour utiliser WhatsApp sur ton ordi? Parce qu'il me semble qu'il faut synchroniser en scannant un QR code.
C'est juste que je vois que une bande. Donc j'étais là, il me dit allez dans réglages sur WhatsApp. Je vais dans réglages, mais je sais pas où est réglages vu que tout est à gauche. Et que moi, ce qui est cassé, c'est à gauche. Donc du coup, je tire mon écran vers la droite pour essayer de voir un truc. Donc je vois GES, je suis là, vas-y réglages. Je clique des trucs au hasard. J'ai mis 2h30 à faire ça, tu vois.
Sinon, tu peux prendre un autre téléphone.
d'un pote ou une pote, et comme ça tu fais les tout en parallèle.
Mère, elle a un Samsung, enfin c'était. Puis j'étais en train de m'occuper du chien, enfin j'avais autre chose à faire en vrai, tu vois. Donc j'étais en train de faire ça de manière distraite. Bon bref, c'est terrible. Et donc tout est compromis quoi quand on n'a plus accès à ce truc-là qu'on a l'impression que c'est un acquis, mais en fait on a grandi son putain de téléphone portable.
Mais est-ce que, et moi j'aimerais savoir parce que t'as passé combien de temps du coup sans téléphone au final?
Voilà, ça fait même pas 24 heures.
Mais est-ce que je sais pas à quel point t'étais peut-être addict ou pas, mais est-ce que t'as ressenti une forme de bien-être ou pas d'avoir été sans?
Pas du tout.
Genre, là c'est pas choisi, c'est normal.
En fait, ça m'a rappelé, il y a 4 ans, je vis la pire année de ma vie. Il y avait le Covid il y a 4 ans?
Non, pas encore.
Enfin, 2020, je crois que c'était avant 2020, le Covid.
Oui, c'est mars.
Année
2020,
de l'horreur. J'ai mon père qui tombe malade, qui décède, je me sépare, change de maison, rien ne va, quoi. C'est vraiment la catastrophe atomica. Et un jour, je casse mon téléphone, évidemment, le 31 décembre, parce que moi, c'est toujours le 31 décembre, j'ai les trompes de Fallope qui explosent. Enfin, il y a toujours un truc qui se passe. Et donc là, mon téléphone se casse. Et... j'ai donné tellement d'informations au micro de ce podcast, c'est terrifiant. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment plus d'argent. Et en fait, il avait fallu que je reste genre 5 jours sans téléphone. Et à ce moment-là, j'avais éprouvé du plaisir, notamment parce que j'avais commencé à observer les petites choses de la vie. À lever le nez, je m'achetais du mimosa tous les jours. Enfin, tu vois, j'avais envie de prendre soin de moi.
Excuse-nous, alors... teamed up.
Mais là, non, en fait, c'est vraiment pas le bon moment parce que j'ai un milliard de choses à faire. J'avais un milliard de rendez-vous aujourd'hui, j'en ai un milliard demain. Et c'était vraiment pas le bon moment pour que ça m'arrive. Mais donc voilà, donc écoutez, profitez de votre iPhone comme si c'était son dernier jour, mais car vous ne savez pas quand est-ce qu'il peut arrêter de marcher.
Tu sais
en fait.
Que je te rejoins tellement, c'était l'année dernière, j'avais le mariage d'un pote dans un domaine magnifique en Bourgogne, bref, le truc haut de gamme, genre qui reçoit des présidents de la République à dîner, donc avec vraiment du personnel haut de gamme, on va dire, enfin ce qu'on croit être du personnel haut de gamme, et je me suis fait tirer mon téléphone pendant la soirée par un des serveurs.
Ouf, ah bon ?
Comment tu sais que c'est un serveur et pas un autre convive ?
Eh ben alors je sais parce que donc évidemment je faisais des allers-retours pour accompagner les gens fumer vu que moi je fume pas et je laissais mon téléphone sur la table à chaque fois et à un moment donné je suis rentrée, mon téléphone n'était plus là. Donc je suis allée voir le maître d'hôtel parce qu'il y avait un maître d'hôtel pour pas déranger les mariés ou les personnes qui profitent du mariage en disant bonjour, j'ai perdu mon téléphone, et en fait le mec s'est braqué direct, je lui ai dit j'ai perdu mon téléphone. J'essayais de l'appeler, il était, je tombais sur le répondeur. Et il m'a direct dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Vous nous accusez ? On n'a pas volé, on n'est pas des voleurs, etc. » Et je lui ai dit « Mais monsieur, je ne vous accuse pas, en fait. Juste, je vous dis que j'ai perdu mon téléphone dans l'enceinte de votre établissement.
Oui,
est-ce que vous pouvez m'aider à le retrouver ?» Et le mec s'est chauffé au point qu'il a appelé un de ses serveurs qui avait l'air vraiment pas marrant du tout. Et que le mec a failli se fighter avec mon frère. Enfin bref, sale histoire. Et comment je sais que c'est un serveur, c'est qu'en fait du coup on a retrouvé plus tard le téléphone dans un sac, une espèce de petit sac où il y avait les cadeaux des invités, juste dans les toilettes à l'entrée de la cuisine, et c'est le maître d'hôtel lui-même qui m'a ramené le téléphone en me disant on l'a retrouvé à cet endroit-là. Et en fait la mère du marié a vu le maître d'hôtel passer avec un petit sac, rentrer dans les toilettes et ressortir avec, comme si il apportait quelque chose plus qu'il n'allait récupérer quelque chose. Bref, voilà. Et du coup, pendant 3 heures qu'a duré ce temps sans téléphone, mais vraiment, je me morfondais, bref, oui. Voilà, parce que je me disais, mais quelle horreur, tu vois, même tes photos que t'as de moi, c'était mes photos, parce que j'ai une petite fille de 2 ans, et du coup, j'étais là, genre, putain, j'ai 2 ans, enfin, 1 an à l'époque de photos que je ne retrouverai jamais parce que j'avais pas synchronisé mes photos sur mon ordi. Et tous ces trucs, effectivement, que tu te dis, je vais perdre parce que je n'ai plus mon téléphone. Donc franchement, je compatis à mort.
Mais c'est pas rebond en plus parce que t'as des réalisations. Tu sais, genre, tu t'es peiné par un truc et tout d'un coup, tu fais « Oh non ! En plus, il y a tes trucs !» Tu sais, ça sort de nulle part. Genre,
mais bien
vraiment.
Sûr, tes pensées philosophiques que
mais
tu
oui,
notes
t'avais écrit
dans
un
notes.
Super poème le matin, clair. Genre, t'étais bien à deux sûr. Doigts de gratter un fucking prix Nobel et boum.
Ouais, les photos et les vidéos, ça doit être dur.
Non, mais là, c'est juste mon écran. Mais c'est juste de pas pouvoir me déplacer. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je savais
ça,
pas lire un plan.
Enfin, justement, je sais pas lire un plan. Et même sur mon téléphone avec le GPS, je galère. Et du coup, je passe ma vie à demander aux gens dans la rue. Et ça me convient très bien parce que souvent, c'est plus simple et plus rapide que le temps que moi, je comprenne un plan, tu vois. Et aussi, ça dépend de à quel point t'es seul ou pas dans tes journées. Mais ce week-end, par exemple, quand j'étais à Londres avec mes deux potes, bah en fait, je crois que mon temps d'écran, il indique une moyenne hebdomadaire, du coup, ça compte pas vraiment, mais de 1h20 par jour, enfin par jour sur l'écran.
Ah, jour,
et
oui.
Je pense que c'est lié à justement à ces trois jours à Londres.
Gen Z.
Parce que justement, en fait, on sortait jamais nos téléphones parce qu'on était ensemble.
Bah
en
oui,
fait.
C'est ça.
Et du coup, on se guidait comme ça facilement.
Mais ça dépend aussi de combien tu te sers de ton téléphone pour travailler, tu vois. Enfin,
ouais.
Moi, aujourd'hui, c'est con, mais on a lancé Acast Plus avec 4 quarts d'heure mon podcast. Il fallait qu'on fasse des stories, j'ai pas pu les faire. Je passe pour la branleuse de service alors que je suis une bosseuse, donc ça me casse les pieds. Enfin, bon, bref. Mais non, mais c'est.
On
fait plein de métiers pour lesquels on a besoin de consulter nos mails toute la journée, de répondre rapidement. Enfin, c'est devenu absolument indispensable et c'est handicapant d'avoir ne serait-ce qu'un écran de téléphone cassé, quoi. Donc voilà. Ode à mon petit téléphone chéri que je vais aller récupérer sans plus tarder, d'ailleurs.
Ben, on te souhaite qu'il fonctionne véritablement.
Ah mais non, t'as pas parlé, toi, encore.
Ben non, incroyable. Très belle histoire.
Je veux que je parte, genre, dans 5 minutes, moi.
Et ben...
Moi aussi.
Ouais, moi aussi, j'avais dit 18h.
Oh, on va te niquer ton kiff.
Je vais faire un kiff très, très court. De toute façon, c'est un kiff qui regroupe pas mal de choses dont j'ai déjà parlé et que je réalise maintenant. Non, mais c'est pas...
Un montage. Merci, au revoir.
Je vais improviser des phrases à partir des différents épisodes. Non, tout simplement, c'est l'influence du théâtre et des comédies musicales au cinéma. En fait, les films que je préfère et les films qui m'ont le plus marqué, c'est les films qui ont une mise en scène des plus audacieuses. Kalindi vous a pas mal parlé de Beau is Afraid, qui est pareil pour moi, un film qui est extrêmement réussi cette année, qui est donc un film de Ari Aster. N'hésitez pas à écouter Le seul avis qui compte, parce que j'ai pas le temps de vous faire un résumé. Et ce film-là, justement, a une mise en scène qui est absolument dingue et qui est vraiment une mise en scène digne de comédie musicale, sauf que ça chante pas. C'est vraiment le seul truc qui manque pour pas que ce soit une comédie musicale.
C'est vrai, c'est vrai.
Et je trouve que c'est vraiment un truc, une patte que je remarque dans tous les films que je vois et qui font preuve de plus d'audace en termes de mise en scène, surtout dans le cinéma français, où le cinéma français, on va pas se mentir, il y a zéro, comment dire, tout est très réaliste, c'est-à-dire que si ça se passe dans une cuisine, il faut vraiment que ce soit une cuisine, on doit avoir une cuisinière, machin et tout, ce qui est aussi une mode au théâtre qui me fait profondément chier. Vous avez pas besoin d'aller chercher une petite cuillère pour qu'on comprenne que vous êtes à table, on y croit à votre pièce. Si vous nous montrez un morceau de carton et vous dites c'est un chapeau, on y croit. Et moi ça m'intéresse au théâtre, c'est ce qu'on appelle la convention, et je trouve que ça prend trop peu de place au cinéma. Et via le musical, justement, ça s'est imposé, je trouve, dans le cinéma, de faire des trucs beaucoup plus grandiloquents, des trucs beaucoup plus symboliques. Et je trouve ça beaucoup mieux, et à tel point qu'on remarque que quand les films, justement, vont avoir ces références-là, ou en tout cas être nourris par ça, même inconsciemment, et ben ça va même aller chanter. Et c'est ce qui s'est passé dans L'amour et les forêts. N'hésitez pas à écouter Le seul avis qui compte sur L'amour et les forêts, et mon kiff de la semaine dernière, du coup. Qui est un film du coup de Valérie Donzelli, où il y a un tout petit moment ils se mettent à chanter, et c'est un moment où justement je trouve que dans la vibe etc il y avait de la musique tout le temps et tout, j'étais en mode mais c'est, on dirait presque un film de demi quoi, enfin où genre ils allaient vraiment à fond dans le truc quoi.
Putain, moi ça m'a foutu le plomb.
Non mais je comprends, parce que t'aimes pas quand ça chante.
Non mais j'aime bien quand ça chante, mais quand c'est une comédie musicale, quand c'est écrit, tu vois, quand c'est dans le postulat. Mais quand là on s'en fout, c'est vraiment t'avais pas l'idée, tu leur as dit bah chante un petit peu.
Mais
là.
Moi ce qui m'intéresse là dedans c'est pas tellement par rapport au film en lui-même, où c'est un choix qui est voilà qui a peut-être une cohérence un peu négociable.
Ça chantait mal aussi.
Oui,
ça joue, hein.
Bah ça chantait, voilà. Chez Demi, il faut dire qu'ils étaient doublés, hein, ça aide aussi. Hein. Catherine Deneuve, elle a pas chanté.
Chez Demi,
hein.
Ça chante globalement mal aussi quand même. J'adore Demi.
Alors
hein,
qu'ils
sur,
sont doublés.
mais
voilà, moi ce que je trouve intéressant là-dedans, ce qui est révélateur, c'est le fait que du coup ils se retrouvent à chanter à partir du moment où on a un film avec une mise en scène un peu plus bold. Et moi c'est ça qui m'intéresse et qu'on trouve vraiment très peu dans le cinéma français. Et parmi mes films préférés, c'est justement des films qui ont des esthétiques hyper marquées et qui sont vraiment très jusqu'au boutiste. Je pense notamment à Chicago de Rob Marshall, qui est incroyabilissime en termes de mise en scène et qui se permet des choses.
C'était avant qu'il fasse La Petite Sirène, c'est dommage.
Ouais, de ouf. Où on sait, bah, il a fait du bien et du moins bien. Il a fait Mary Poppins Returns, qui était incroyable. Et il est vraiment très très
c'est
bien.
C'est vrai.
Et qui est une comédie musicale aussi d'ailleurs. Je pense que c'est ce sur quoi il excelle le plus. Il a fait Nine, qui est vraiment pas très bien pour le coup, qui est un espèce d'hommage un peu raté à la Dolce Vita. Bref, il y a pas mal de cinéastes qui, je trouve, quand ils s'expriment à travers ça, en fait, se permettent beaucoup plus de folie et beaucoup plus de faire confiance en fait aux spectateurs qu'ils ne le feraient avec des conventions beaucoup plus réalistes en fait. Et moi j'aime bien ce truc de dire en fait on prend pas le spectateur pour un con, on va faire vivre l'émotion plutôt que faire vivre le contexte, faire vivre les circonstances machin et tout. Enfin j'ai pas envie de regarder des fucking biopics quoi, genre ça...
Putain moi non plus.
Mais oui ça me fait chier, alors que voilà ces films là se permettent vraiment des choses et du coup on se retrouve avec Bah, des trucs qui restent et qui sont historiques. Et un Roméo plus Juliette, tu vas t'en souvenir. Est-ce que tu vas te souvenir du dernier film qui sort, qui est un biopic de telle personne, et où chaque plan reproduit exactement la réalité, et on met des prosthétiques et machin et tout. Bon, voilà. Je trouve que le théâtre là-dessus a je pense, une influence sur le cinéma. Et je parle de comédie musicale parce que pour moi, c'est un vrai pont entre théâtre et cinéma, justement. Et c'est pour ça que j'aime autant les comédies musicales dans le cinéma. Et que j'aime aussi peu les pièces de théâtre qui s'inspirent de cinéma en général, à part celle de Marc Lenné, qui est un des metteurs en scène que j'aime le plus, en tout cas un de mes premiers coups de cœur théâtral. C'est très dense. C'est des références dont j'ai parlé dans d'autres épisodes de LMK. Je vous renvoie vers des ressources du Seul avis qui compte. Et c'est la fin de cet épisode de LMK pour que tout le monde puisse sortir.
Mais c'est ça qu'on doit te dire à chaque fois. Il faut qu'on te dise, on n'a pas le temps.
Bah écoutez, si vous voulez pas m'entendre, n'hésitez pas à ne pas m'inviter dans ce podcast.
Mais tu rigoles ?
Non,
mais
c'est la fin de cet épisode.
Mais là, c'était tellement complet et concis à la fois.
C'était hyper impressionnant.
J'ai pas respiré, je respirais tout à
l'heure. La question, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre aussi ? Est-ce que c'est des émotions ou...
Ah bah là, je sais pas si niveau émotion, on est là. On est sur le contenu.
Non, mais incroyable.
Ah ouais, là, toi,
mais on parlait. Marie-Stéphanie parlait du film, je crois.
Ah, pardon.
Je rebondis.
On parlait de ton kiff, pas de toi, Mathis.
Moi, je prends tout pour un plébiscite, car je suis Sagittaire. Très bien. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Merci pour vos messages boubou, vos commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer des kiffs, des anecdotes, etc. Quels commentaires.
Envoyez-nous des commentaires SVP.
Et on vous fait plein de bisous. Et en attendant la semaine prochaine,
touchez-vous bien, Kiki.
Bisous.
Je l'ai pas, celle-là.
Voilà, c'est pas grave.
Je l'ai vraiment pas.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.